Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Pendant une heure, nous allons découvrir les acteurs de la société qui font bouger les lignes. La France bouge. Ici, c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Quand transition écologique, rentabilité économique et création d'emplois peuvent rimer, en même temps, c'est le pari de l'explorateur Bertrand Piccard. Il vient de labelliser 1000 projets qui remplissent toutes ces cases. Et il est avec nous jusqu'à 14h pour nous en parler.
À la une, en effet, une transition écologique et rentable. Et si on obtenait, par exemple, un plastique plus écologique? C'est le défi réussi de Carbiolis. Cette start-up a mis au point une technologie révolutionnaire. Une enzyme qui permet au plastique d'être 100% compostable. On va la découvrir avec sa présidente d'ici quelques minutes.
Tiens, quand les grands groupes parfois polluants accélèrent aussi dans la transition écologique. C'est le cas d'Engie. Une de ses filiales développe une climatisation plus écologique. Là aussi, c'est une des 1000 solutions de Bertrand Piccard.
Chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur vient nous présenter son projet dans La France bouge. Le pitch du jour, mai, comme le mois de mai en anglais. Une appli pour aider les jeunes parents débordé par l'arrivée d'un bébé. Ce projet va-t-il vous convaincre? Réponse 13h45.
Et vous cherchez du boulot? On a des offres d'emploi pour vous chaque mercredi et chaque vendredi. Aujourd'hui, on a 80 postes à pourvoir. Où? Réponse vers 13h50.
Et oui, c'est ça, la France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Elle bouge et elle trouve des solutions. Et c'est peut-être ça même le plus important. Des solutions pour l'avenir, pour réussir. Transition écologique et réussite économique. On en parle jusqu'à 14h avec notre témoin du jour.
Bonjour Bertrand Piccard.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes médecin, explorateur, pilote. On se souvient de votre magnifique aventure Solar Impulse avec votre avion qui fonctionne à l'énergie solaire. Et après ce défi, vous avez lancé la fondation Solar Impulse. Et avec près de 400 experts, vous avez certifié là récemment 1000 solutions pour permettre aux entreprises et aux citoyens de préserver l'environnement. Un sacré challenge lancé il y a 4 ans et demi lors de la COP22. Vous venez juste de présenter les lauréats. Alors pour être lauréat, il faut avoir une solution qui préserve l'environnement, mais qui est aussi rentable. La transition écologique, Bertrand Piccard, passe-t-elle désormais par les entreprises ?
Elle passe par les technologies propres, elle passe par les énergies renouvelables, à condition qu'elles soient rentables. Et c'est la manière de convaincre les entreprises, mais aussi les gouvernements. Il faut voir que tant que la réglementation, le cadre légal reste laxiste, basé sur des vieilles technologies, et qu'il est légal et permis de polluer, il n'y aura pas grand-chose qui changera. Donc il faut convaincre les gouvernements, il faut convaincre les entreprises. Pour ça, il faut parler leur langage. Et ce langage, c'est celui de la création d'emplois et du profit industriel. Et ça, c'était le pari depuis 5 ans avec la Fondation Solar Impulse. On a réussi. Avant-hier, on a eu la 1000e solution. C'était une immense émotion dans l'équipe parce que c'était un chiffre un peu virtuel jusqu'à ce qu'on le touche.
Puis et
tout à coup, on
réalisé.
Se dit, il y en a 1000, on est même à 1008 parce qu'on continue les labellisations maintenant.
Mais pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce qu'il faut remplir comme case pour être labellisé? Parce qu'il faut donc être rentable, il faut changer le monde, principalement d'un point de vue environnemental. Mais comment on mesure cela?
Et il faut être aussi crédible aujourd'hui. Si Carbiolis était venu me dire « on aura bientôt un système pour rendre le plastique compostable », je leur aurais dit « écoutez, revenez plus tard ». Parce que si moi je vais chez un chef d'État en disant « on aura bientôt quelque chose », il me dira aussi « revenez plus tard ».
Donc c'était
donc
concret.
Donc ça doit être existant aujourd'hui, commercialisable ou commercialisé aujourd'hui.
Mais ce qui est important par rapport à ce que disait Elisabeth Assayag, les 1000 solutions, ce sont des entreprises. Vous le dites, il faut que les gouvernements changent, que les entreprises changent, mais là ce que vous voulez prouver, c'est que c'est déjà en mouvement, parce que vous reprenez l'exemple de Carbiolis qu'on aura tout à l'heure, ça fait des années qu'ils travaillent dessus, qu'ils sont acteurs déjà de ce changement. Alors, vous êtes un accélérateur de changement finalement.
Absolument, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près une moitié de ces solutions qui viennent de start-up, et l'autre moitié qui viennent de grandes entreprises. Et il y en a à peu près 200 qui viennent de gros groupes, comme Schneider Electric, comme Air Liquide, comme Engie. Il y a des changements dans le mode d'investissement avec BNP Paribas. Il y a tellement de choses qui changent. Tous les matériaux de Soprema pour avoir des bâtiments mieux isolés. Tout ça, c'est juste à disposition, mais ça ne se sait pas assez.
Donc ça signifie que cette prise de conscience ne vient pas seulement des start-up, mais ça y est, les grands patrons aussi se sont emparés de cette prise de conscience, de ce devoir de changer le monde.
Certains, oui. Et ils montrent que c'est possible. C'est pour ça que je les admire. Maintenant, il y en a qui ne bougent pas. Et c'est pour ça qu'il faut que la réglementation évolue pour pousser les récalcitrants. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le changement de paradigme qui s'opère, c'est qu'on n'est plus dans le lien entre le PIB et la consommation et l'augmentation de production. On peut arriver dans un lien entre le PIB et l'augmentation de l'efficience. Donc, au lieu de vendre plus, on vend de l'efficience. Et ça, c'est des modèles comme celui d'Engie, par exemple.
Ça veut dire quoi, vendre de l'efficience, pour qu'on comprenne bien ? C'est-à-dire que, quitte à vendre peut-être un peu plus cher, mais si on est sûr que ça va être bon pour l'énergie et que mon téléphone portable ou mon frigo, ils ne vont pas casser dans 3 ans et que je ne sois pas obligé d'en racheter un autre.
Alors, par exemple, oui, c'est vrai que ça nécessite un peu plus d'investissement au départ, mais ce n'est pas un coût, c'est un investissement, ce qui, par définition, rapporte de l'argent par la suite.
Est-ce que la crise, finalement, que nous vivons, n'est pas une chance ? Parce qu'on se rend compte qu'il faut aussi mieux consommer, faire peut-être plus attention à la nature, faire plus attention aux sanitaires. Tous les plans de relance dans le monde, on peut prendre l'exemple français, accentuent plus vite qu'ils ne l'auraient fait sur la transition écologique. Par exemple, on essaye en France de devenir les stars de l'hydrogène vert. On ne l'aurait jamais fait sans cette crise, ou sûrement pas aussi vite. Est-ce que ça vous aide finalement ?
Alors, c'est une chance à condition qu'on la saisisse correctement. Parce que si les milliards d'euros qui sont déversés sur les marchés aujourd'hui sont utilisés pour relancer des vieilles industries qui n'ont aucun futur, comme celle des moteurs à combustion, par exemple, des maisons mal isolées, des industries non efficientes, etc., c'est de l'argent qui est gaspillé. Mais imaginez maintenant que ces milliards servent à moderniser toutes les infrastructures, moderniser toutes les technologies que la France utilise ou que l'Europe utilise. Eh bien, on sort de la crise avec un pays moderne, des infrastructures efficientes qui coûtent moins à l'utilisation. Ça augmente le pouvoir d'achat de tous les citoyens s'ils payent moins de factures d'énergie, moins de factures d'électricité, moins de factures pour l'eau, etc., parce que tout est devenu plus efficient. Donc là, ce serait une chance extraordinaire, mais il ne faut surtout pas la rater, parce que si on la rate, il n'y en aura pas d'autres prochainement.
Ce défi a été lancé il y a 4 ans et demi lors de la COP22. Est-ce que vous avez remarqué une accélération des projets ou des nouveaux projets liés à la crise ? Est-ce que là, en un an, vous avez eu beaucoup plus de projets que pendant les 3 années précédentes ?
Oui, absolument, mais pour une autre raison en fait. C'est que quand j'ai lancé le projet, c'était un peu comme quand j'ai voulu faire le tour du monde en ballon ou le tour du monde en avion solaire. Les gens m'ont dit, attendez, c'est impossible votre truc. Il
n'y
aura jamais 1000 solutions, vous ne trouverez jamais. Puis en plus, ce n'est pas rentable. Donc au début, il y a eu beaucoup de travail pour commencer avec les premières solutions, pour convaincre. Et puis maintenant que tout le monde voit qu'on a réussi, je peux vous dire qu'alors là, les solutions arrivent à l'appel.
Surtout tous ceux qui ne sont pas labellisés, ils se disent, mince, pour l'avenir, si je n'ai pas le label, je vais passer pour un couillon, pardonnez-moi l'expression.
Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'on a maintenant notre hashtag Beyond 1000 Solutions, au-delà des 1000 solutions, parce qu'on veut montrer qu'on continue à labelliser. On va plus mettre de buts, de nombres.
Il y en aura plus de 1000 maintenant. Il y en aura beaucoup plus que 1000.
Mais ce qu'il faut maintenant, c'est tout le travail d'implémentation. Donc, on va amener ce guide de solutions au gouvernement, aux grandes entreprises et leur donner les moyens pour atteindre leurs buts environnementaux. Parce que c'est très bien de dire qu'on veut être neutre sur le plan carbone en 2050,
mais comment on le fait et avec quels moyens ? On va continuer à parler de ces 1000 solutions, Bertrand Picard. Je rappelle que vous êtes explorateur, médecin, président de la fondation Solar Impulse et vous êtes notre invité du jour dans La France Bouge.
Europe 1. Et il est 13h18.
Et à suivre, une enzyme qui permet au plastique, l'un des pires polluants de la planète, d'être 100% compostable.
Oui, c'est la start-up Carbiolis qui l'a imaginé. Ils font partie de ces fameuses 1000 solutions et on vous présente tout dans un instant. On porte souvent bien notre nom, mais peut-être encore aujourd'hui mieux que d'habitude. La France bouge pour innover, pour se transformer d'un point de vue notamment écologique. Et on en parle avec notre grand témoin du jour, Bertrand Picard, l'explorateur, président de la fondation Solar Impulse. Il avait lancé un pari complètement fou, trouver 1000 solutions rentables et qui ont un impact sur l'écologie. On en est à 1008, nous a-t-il dit depuis le début de cette émission. Et justement, tiens, je crois qu'on va en découvrir maintenant,
et
Elisabeth.
Oui, parmi ces solutions, alors il y en a une, mais il y en a plein, j'en suis sûre, révolutionnaires. Mais on en a retenu une. Elle est dédiée à un polluant qui détruit notre planète, notre santé. Je vais vous parler du plastique, évidemment. La plupart du temps, les plastiques pas recyclés sont ceux, par exemple, souillés par les aliments, les plastiques trop fins. Et malgré les innovations, eh bien, ça reste compliqué. Bonjour Nadia Auclair.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de Carbiolis. Vous avez créé Evanesto. Evanesto, c'est un additif que vous ajoutez dans les bioplastiques. Votre entreprise est basée à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Face à la pollution plastique, on le sait, il existe des solutions de recyclage, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est comme ça que vous avez créé Carbiolis. Hein. Vous proposez donc des solutions pour dégrader le plastique. Vous pouvez nous décrire cette enzyme ?
Oui, donc en fait, notre solution, donc Evanesto, c'est un additif dont le principe actif, c'est une enzyme. Donc une enzyme, c'est quelque chose que vous connaissez tous, ça existe dans la nature. C'est une protéine qui vient en fait digérer, accélérer la digestion des aliments, des nutriments. Et bien là, en fait, elle vient digérer le plastique.
Et ce qui fait que le plastique devient, on peut le mettre dans le compost, il est biodégradable. C'est-à-dire que c'est ça qui est impressionnant dans votre solution.
Voilà, donc là, tout le challenge de la solution, c'était de rendre ce plastique digérable par les micro-organismes qui sont présents dans un composteur. Donc ces micro-organismes vont venir vraiment digérer entièrement le plastique grâce à notre enzyme, donc, qui va venir accélérer ce mécanisme et qui va permettre en fait de transformer entièrement le plastique en compost.
Donc l'enzyme, elle fait que les organismes digèrent le plastique. Ça va être utile pour quoi dans notre quotidien ? Pour les emballages, par exemple ?
Voilà, donc comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, certains emballages ne sont pas recyclés. C'est autour de 5% en France, en fait, d'emballage, le taux de recyclage des emballages en France, hors bouteilles et flacons. Donc on voit que c'est un taux quand même extrêmement bas. Et ce sont des plastiques qui sont aujourd'hui soit souillés par les aliments, soit qui sont trop fins, ou soit qui sont complexes, c'est-à-dire que c'est un assemblage de plusieurs plastiques. Et en fait, pour ces plastiques-là, notre solution est de les rendre biodégradables dans un composteur.
Qui sont vos clients aujourd'hui ? C'est-à-dire que, par exemple, on reçoit Aost demain, l'un des géants du jambon, qui nous dit que justement, ils cherchent des solutions pour le plastique. Ça pourrait être un de vos clients ?
Tout à fait. Donc voilà, par exemple, le jambon, aujourd'hui, on voit qu'il y a un opercule, qu'il y a une barquette et qu'il y a en plus un film plastique qui sépare différentes tranches de jambon. Bah, typiquement, tous ces plastiques-là qui sont utilisés ne sont pas aujourd'hui recyclables et pourraient être en fait mis dans le compost, et notamment avec des restes de biodéchets que vous avez autour de votre table pour que l'ensemble en fait soit valorisé.
Mais ça coûte pas une fortune votre plastique ?
Parce
que c'est ça aussi. C'est ça l'idée. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être rentable pour l'entreprise ? Est-ce que ça peut permettre que le consommateur ne paye pas non plus 4 fois plus cher ?
Déjà, l'entreprise ne va plus utiliser les surcouches, tout l'emballage, il y aura autre chose, j'imagine.
Voilà, donc en fait, du coup, nous aussi, nous avons obtenu donc, la labellisation Solar Impulse, et justement, la rentabilité économique et la pertinence économique étaient étudiées. Et je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, par exemple, un pot de yaourt, donc, qui n'est pas recyclé, qui finit dans vos déchets ultimes, donc soit en incinération, soit en décharge. Aujourd'hui, c'est 1 centime de plus le coût additionnel de notre solution.
Au regard
du problème traité, je pense que c'est raisonnable.
C'est quoi votre objectif avec tout ça, Nadia Auclair ?
Alors notre objectif, en fait, c'est vraiment d'amener une solution complémentaire aux déchets plastiques. Parce que pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est pas le plastique en tant que tel qui est un problème, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages au plastique.
C'est on en fait quoi après, c'est ça ?
C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait du déchet ?
Et vous arrivez pile au bon moment, parce que vous disiez, il y a seulement 5% des plastiques qui sont aujourd'hui recyclés, mais enfin, j'ai envie de dire, on le recycle parce qu'enfin, on a compris l'intérêt économique derrière et on attendait que des gros acteurs arrivent et que des solutions soient disponibles et c'est ce que vous proposez aujourd'hui.
Voilà, tout à fait. Donc, d'autant plus qu'on a déjà, comment j'allais dire, au plan, par exemple, européen, vu l'intérêt de traiter les biodéchets, puisqu'il y aura une réglementation en fait, qui va être mise en place pour un tri à la source des biodéchets. C'est une valeur, en fait, ces déchets. On peut les transformer soit en compost, soit en méthanisation. Donc, pourquoi pas des emballages qui, aujourd'hui, finissent en décharge ne finissent pas en valorisation.
Vous étiez la combientième solution de Bertrand Piccard, vous le savez ?
Oh, je pense qu'on doit être presque la millième, parce qu'on a eu notre labellisation en janvier.
Pourquoi vous avez voulu ? Ça venait conforter votre projet. Vous disiez, grâce à ça, vous pouvez aller voir des clients en disant « Regardez, ce qu'on fait, c'est vraiment bien, parce que même Bertrand Piccard, il l'a dit. »
Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que parce que Bertrand Piccard l'a dit, et surtout que les dossiers ont été analysés concrètement, avec des solutions concrètes, mais aussi économiquement viables, on est au stade industriel, au stade de pré-commercialisation, mais également parce qu'après, derrière, il y a une deuxième étape que Bertrand Piccard présentait tout à l'heure, qui va être en fait de présenter ces solutions à l'international, de présenter en en fait concrètement ce qui existe.
Donc vive le rayonnement de la France en plus.
Et voilà, une solution française, une start-up de, voilà, de 25 personnes basées à Clermont, avoir une telle rayonnance, c'est, voilà, c'est une opportunité pour déployer la solution.
Bertrand Picard, derrière vous, il y a aussi 400 experts indépendants qui ont validé Carbiolis. Et là, on est dans l'exemple parfait de la solution, de vos solutions. On est dans une entreprise qui protège la planète, on est dans une entreprise qui crée de l'emploi, et innovante et rentable, on imagine.
Mais complètement.
Donc là, on coche toutes les cases. C'est ça, en fait, les critères.
On coche toutes les cases. Et si les cases ne sont pas toutes cochées, il n'y a pas de label.
C'est ça.
Donc il faut vraiment voir. On a un processus qui est certifié par Ernst & Young. On a aussi, nous, une équipe de 40 personnes qui fait tout le pre-screening, qui analyse tout ça avant de donner aux experts, qui aide les innovateurs à remplir leur dossier. C'est une équipe qui est hyper motivée. Tout le monde était extrêmement ému hier quand on a passé le cap des 1000 solutions et qu'on pouvait les annoncer. Donc, je crois que c'est aussi ça qui touche tout le monde. C'est qu'on le fait, bon, parce que c'est à but non lucratif. Donc, on le fait vraiment parce qu'on est totalement convaincu qu'avec ça, on peut changer le paradigme, on peut vraiment améliorer le fonctionnement de nos...
Comment moi, je sais, client, consommateur au bout du bout, que ça fait partie d'une des entreprises que vous avez labellisées? Comment je vais le retrouver, ce label?
Mais on le reconnaît.
Alors, par exemple, chez ADO, qui possède le Roi Merlin, vous allez avoir dans les tout prochains temps des produits à la vente, grand public, avec le label, qui vous montrent que ce sont des produits qui vous permettent d'économiser de l'argent et qui vous permettent de protéger l'environnement. Et je pense que Carbiolis, ça va être la même chose. Mais alors, vous êtes plutôt B2B, hein, vous parlez à des autres industries, mais on vise aussi le client final avec ce label.
Nadia Auclair, vous avez beaucoup de clients aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on est vraiment dans la phase vraiment de commercialisation. Mm-hmm. Donc on peut parler plus de prospection que de prospects plutôt que de clients. Mais aujourd'hui, voilà, on a plus d'une centaine en fait de prospections, c'est-à-dire de gens qui sont en train d'évaluer notre solution.
Ça s'appelle Evanesto, hein, c'est ce que vous avez créé. Vous êtes la présidente de Carbiolis. Merci Nadia Auclair d'être venue dans La France Bouge nous présenter votre formidable solution.
Et notre explorateur Bertrand Picard, on vous garde encore un petit peu avec nous, hein. Vous êtes notre grand témoin aujourd'hui jusqu'à 14h.
Europe 1.
Et il est 13h28 sur Europe 1 à suivre. C'est comme une clim, mais c'est pas une clim et ça chauffe des quartiers et des villes.
Oui, et c'est un groupe qui s'appelle Engie, on le connaît quand même un petit peu, qui est derrière tout cela. Et là aussi, c'est une des solutions qui vient d'être sélectionnée par Bertrand Picard. Elle bouge et elle offre des solutions pour que demain soit meilleur, tout en étant rentable du côté des entreprises. On en parle depuis le début de cette émission avec l'explorateur Bertrand Picard qui vient de logoter, de labelliser 1000 solutions qui permettent d'être meilleures pour la planète. Parmi ces solutions, décarboner les villes, rendre la production d'électricité plus verte. Avec le réchauffement climatique en France, on va de plus en plus avoir besoin de climatisation.
Un besoin qui, d'après les experts, va tripler d'ici 2030. Et là encore, Bertrand Picard, vous avez labellisé, vous avez certifié une solution. Bonjour François-Xavier Boulle.
Bonjour.
Vous êtes le directeur commercial de Tabrid. Tabrid, c'est une filiale d'Engie. Vous êtes aux Émirats et vous avez mis en place tout un réseau de froid, une sorte de climatisation à l'échelle non pas d'un appartement, mais d'un quartier. Et c'est une solution durable. Ça fonctionne comment ?
Alors oui, on est effectivement sur une solution d'efficacité énergétique. C'est une climatisation géante à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. Au lieu d'être au niveau individuel avec des blocs de clim que vous pouvez avoir sur des appartements ou des blocs de clim qui sont au niveau d'un bâtiment collectif, ici on a une production de froid qui est centralisée, qui est mutualisée. Donc, qui dessert tout un quartier. Un quartier sont des résidences, sont des commerces, sont des bureaux, sont des hôtels, des hôpitaux, différents bâtiments qui ont besoin de froid. Typiquement sur nos latitudes ici aux Émirats et dans le Golfe, il y a un besoin de froid en permanence et toute l'année. Et donc voilà, c'est une solution centralisée avec bien sûr des avantages dont on va parler en termes d'efficacité et même d'un point de vue pratique aussi.
Voilà, c'est ce qu'on voulait savoir avec Elisabeth. En quoi c'est vraiment plus respectueux de l'environnement ? Parce que ça reste de la clim et la clim en soi, c'est quand même pas super respectueux.
Tout à fait. Alors, c'est une solution qui utilise des équipements industriels de pointe, hein, avec des technologies de pointe, les technologies les plus évoluées. En centralisant la production, on peut faire appel à nos opérateurs et nos agents de maintenance spécialisés qui du coup, permettent de maintenir l'équipement à un état parfait et de l'opérer toujours dans la plage optimale d'utilisation. Donc, ce que ça aboutit, ça nous permet d'avoir des gains d'efficacité. On est 50% plus efficace que de la climatisation traditionnelle, hein, donc notre climatisation individuelle, etc. C'est donc 50% plus efficace que cela. Ça permet donc des réductions.
Plus efficace, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tourner le bouton à fond pour que ça fonctionne correctement.
Oui, tout à fait. C'est à peu près l'idée, mais c'est surtout que, en fait, la production de froid en tant que telle est plus efficace. Donc ensuite, ce que le client fait du froid, s'il veut se rafraîchir à 15 degrés, qu'il le fasse. Mais clairement, la production de froid en tant que telle est pour la même quantité d'énergie fournie, on a besoin de deux fois moins d'énergie.
Mais là, on est à l'échelle des quartiers, on n'est pas à l'échelle d'un appartement. Donc, vous utilisez quoi comme type de matériel ? Ça signifie que le matériel utilisé dure plus longtemps aussi ? C'est pour ça aussi que c'est plus durable ?
Alors, ce sont des gros groupes froids, hein. Pensez à des gros blocs de climatisation, qui sont donc industriels et qui sont donc effectivement qui ont des durées de vie de 30, 40, 50 ans s'ils sont bien opérés et bien maintenus. Comparé à de la climatisation individuelle que vous allez avoir à changer au bout d'une quinzaine d'années, tout simplement parce qu'elle est aussi obsolète et puis parce qu'elle ne fonctionne plus, parce qu'il faut tout changer, parce que rien n'a été fait, parce qu'elle n'a pas été opérée ou maintenue dans les conditions adéquates.
François-Xavier Boulle, hein, vous le disiez, vous êtes là en direct avec nous grâce à la technologie depuis les Émirats. Vous le dites, sous vos latitudes à vous, c'est très efficace, mais avoir de la clim aujourd'hui, même dans des pays un peu plus tempérés comme la France, il y en a de plus en plus, ça se développe. Est-ce que du coup, ce genre de solution, c'est aussi utile pour réduire la présence de la clim dans nos pays ?
Disons que ça permet surtout de rafraîchir l'espace de façon efficace. Le froid et la clim est devenue essentielle.
Donc c'est l'avenir, en gros. La clim, le froid,
oui,
c'est l'avenir
c'est
pour
la
vous.
C'est la colonne. Alors, nous, nos estimations sont qu'effectivement, d'ici les 30 prochaines années, on aura au moins un triplement des demandes de froid, de climatisation. On est positionné sur le Golfe, où clairement, c'est un marché où il y a besoin de froid, de clim, mais bien sûr, dans tous les pays émergents. Hein. Clairement, tous les pays en développement, aujourd'hui, les pays émergents ont un besoin de froid important. La France aussi subit le réchauffement climatique. Les gens habitent dans les villes. Dans les villes, on a cette solution qui marche très très bien, qui est aussi, d'un point de vue architectural, s'adapte parfaitement bien dans le paysage urbain.
Oui, parce que ça évite d'avoir des équipements sur les toits ou sur les fenêtres, votre solution.
Voilà, c'est ça. Ça évite d'avoir ces équipements. Cet équipement est centralisé quelque part et donc en général plus ou moins à l'abri des regards, si j'ose dire. Et donc la solution est fiable aussi. Donc on a une solution pratique.
Mais pourquoi vous avez voulu faire partie des solutions de Bertrand Piccard ? Parce que Tabrid existe depuis 1998. Vous n'êtes pas récent. En quoi un groupe filiale d'Engie comme vous, vous aviez aussi vous besoin de cette labellisation ?
Faut voir que cette solution aujourd'hui représente que 2 voire 3% d'après nos estimations hein, du froid qui est installé, de la climatisation qui est installée dans le monde. Aujourd'hui, à l'heure de l'urbanisation importante, on sent bien qu'il y aura de plus en plus de développement urbain et donc de besoin de froid concentré dans les villes. Et donc, c'est une solution qui s'adapte parfaitement à ce besoin-là. Et donc, quitte à produire du froid, autant le produire de façon la plus efficace. Pour décarboner les villes, les sociétés, on a véritablement deux axes. On a verdir la production d'électricité, ça c'est un chantier énorme qui est en cours. Et puis, bien sûr, régler le problème au niveau de la consommation et de réduire la consommation par des moyens beaucoup plus efficaces et fiables, tels que notre solution.
Bertrand Piccard, vous êtes notre grand témoin du jour. Quand vous écoutez cette solution hein, de François-Xavier Boulle pour Tabrid, je voyais réagir.
Mais je vais vous donner une analogie. Quand vous avez des tas de blocs d'unités d'air conditionné à toutes les fenêtres, sur tous les toits, etc., c'est comme toutes les voitures sur une autoroute. Et puis quand vous avez un froid central, comme ce que fait Engie, c'est comme si tout à coup vous avez un train. C'est-à-dire qu'il y a un seul moteur pour tout le monde, que chacun ait son petit moteur.
Donc forcément, c'est beaucoup plus
efficient. Également, parce que ce que vous pouvez faire, c'est stocker du froid. Quand vous avez beaucoup de soleil ou beaucoup de vent, avec des énergies renouvelables intermittentes, vous fabriquez plus de froid. Et puis, quand il n'y a plus assez de vent ou plus assez de soleil, vous avez assez de froid pour pouvoir le distribuer pendant plusieurs heures vers les clients. Donc, vous participez au stockage des énergies renouvelables de cette manière-là.
Là, on a eu deux exemples de vos solutions depuis le début de cette émission. Est-ce qu'il y a des secteurs parmi d'autres qui se dégagent particulièrement dans ces 1008 solutions qui sont labellisées à 13h37 en ce moment sur Europe ?
Alors, on a l'eau, l'énergie, l'industrie, l'agriculture, la mobilité, la construction. Et ça se répartit de manière plus ou moins égale entre ces six secteurs, avec une constante qui est l'efficience, la recherche d'efficience. Alors l'efficience...
C'est quoi, pour que tout le monde comprenne qu'on soit tous au même niveau ? L'efficience pour vous, c'est quoi dans, par rapport à une
alors,
entreprise ?
Alors l'efficience, c'est quand on a besoin d'un minimum de moyens pour arriver au maximum de résultats. L'efficacité, c'est si vous ne visez que le but. Indépendamment du moyen. C'est pour ça que dans le passé, on était très peu efficient. On utilisait beaucoup trop d'énergie.
C'est
pour
l'association du moyen
chose.
Et du but pour vous.
Exactement. Donc, quand on est efficient, on va économiser de l'énergie, on va économiser des déchets, on va économiser des ressources naturelles, on va économiser tout ce qui permet de vendre un service et de vendre une technologie. Et puis, on va ensuite permettre de développer des nouveaux secteurs qui n'existaient pas jusqu'à maintenant et qui sont justement les secteurs du futur qui doivent profiter des investissements, de la relance économique, etc.
Bertrand Picard, vous êtes suisse. La Fondation regarde tout ce qui se passe partout dans le monde. Dans tous les exemples que vous avez cités au début de l'émission, vous n'avez cité que des exemples français. Est-ce qu'on est très bien représentés, nous, Français, dans ces 1000 solutions ?
Alors, je dois dire que oui.
Ah,
je peux vous
ça
féliciter.
Fait du bien, ça.
Il y a à peu près 300 solutions sur les 1008 qui sont françaises. Vous êtes innovant, on le sait, mais c'est vrai que moi, j'ai aussi un penchant pour la France. Je suis peut-être plus connu ici qu'au Guatemala. Et on a attiré aussi plus de solutions françaises.
Mais notre pays est-il, j'ai envie de dire, est-il leader sur toutes ces questions ? Ou on a encore une grande marge de progression ?
Écoutez, je pense que vous êtes leader sur la combinaison des technologies, des entreprises et de l'envie de les utiliser. Parce que c'est sûr qu'aux États-Unis, vous avez beaucoup de bonnes technologies également. Mais il n'y a pas eu, dans les dernières années, cet élan en faveur de l'environnement qui visait à utiliser des nouvelles technologies. Aujourd'hui, quand je parle avec Emmanuel Macron, avec Bruno Le Maire, avec Barbara Pompili, je sens ce besoin de solution, cet élan pour faire quelque chose. Et j'en veux pour preuve la Convention citoyenne qui n'est pas venue là par hasard. C'était vraiment pour donner la parole à la population. Mais maintenant, il faut qu'on ait les solutions pour pouvoir répondre aux demandes de la Convention citoyenne. Et c'est pour ça que je pense qu'on va être très, très utile.
Vous le disiez tout à l'heure, il fallait que j'ai des solutions qui soient concrètes pour aller les vendre aux chefs d'État. La suite, c'est
pour
ça.
Pour aller les offrir.
Les offrir, mais les vendre aussi, quand je veux dire, c'est aller les promouvoir. Le
c'est
mot
surtout
aurait peut-être
pouvoir
été
les convaincre.
Les convaincre, voilà, on va faire tout le cahier des synonymes avec ça. Parce que maintenant, c'est ça qui est concret. Vous allez prendre votre bâton de pèlerin et vous allez aller voir Joe Biden, vous allez aller voir Boris Johnson et autres, et vous allez leur dire, voilà les gars, il y a 1000 solutions, misez sur elles parce que ce sera bon pour tout le monde.
Oui, exactement. Et on travaille avec différents partenaires.
Les rendez-vous sont pris.
Berger, par exemple, pour avoir une empreinte propre des pays, ce qu'on appelle le clean print. On est en train d'en préparer un comme ça pour l'Écosse. On est en train de travailler avec la région Grand Est de Jean Rottner, avec la région Île-de-France de Valérie Pécresse, dans ce même but. Appliquer les solutions nécessaires sur chaque région, calculer l'impact, l'avantage que ça représente pour la région, et ensuite essayer de donner envie à tous les autres pays de faire la même chose avec nous.
Laissez ce racole, premier rendez-vous. Les rendez-vous sont déjà pris ?
Alors, des rendez-vous sont en train d'être pris pour lancer ces 1000 solutions en France à l'Élysée. Et puis sinon, on attend la fin de l'épidémie du Covid pour pouvoir vraiment voyager. Parce qu'en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui ne sont pas en état de nous recevoir et nous d'aller les voir.
Vous déplacer. Merci François-Xavier Boulle de nous avoir présenté depuis, en direct depuis les Émirats votre solution. Bertrand Picard, vous restez avec nous parce que maintenant, on va avoir un moment fort de l'émission de La France Bouge. Ça va être le pitch du jour. Donc on va vous demander, là, cette fois-ci, de porter votre casquette de coach pour écouter et conseiller un entrepreneur qui se lance.
Europe 1. Et il est 13h42.
Et donc le pitch du jour, c'est MAY.
Oui, une application pour aider les jeunes parents. Et tout cela, c'est dans un instant. Et on parle solution depuis le début de cette émission avec notre grand témoin exceptionnel, Bertrand Piccard, le président de la fondation Solar Impulse, la fondation qui a labellisé, on vous en parle depuis le début de cette émission, 1000 solutions d'entreprise, solutions qui viennent transformer l'environnement, améliorer l'environnement, tout en étant rentable. On est à 1008, même pour être précis, puis on a entendu que ça va maintenant.
Peut-être qu'il y en a eu d'autres depuis. Hein.
Assurément, je suis sûr qu'il y a plein de patrons et patronnes qui sont là en train de se dire, allez hop, 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 moi je veux le label. Mais tiens, peut-être notre pitch du jour, un jour, vaudra aussi ce label. C'est l'occasion devant notre grand témoin du jour, hein, Bertrand Piccard, et puis notre fée, notre prouesse technologique à nous, Nathalie Carré de la Chambre de Commerce et d'Industrie, que l'on retrouvera tout à l'heure.
Et un projet né il y a tout juste un an, c'est bien ça, Cécilia Creuset ?
Bientôt un an, dans un mois.
Bonjour, vous avez 33 ans, vous êtes la cofondatrice de May, M-A-Y. C'est une application que vous avez donc lancée pour aider les jeunes parents qui sont parfois un petit peu dans certaines galères, comment aider les enfants à trouver le sommeil, comment les faire garder, l'alimentation, et bref. Toutes les réponses sont dans votre appli, donc vous allez nous la décrire. C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
May, M-A-Y, c'est effectivement une application qui aide les parents de jeunes enfants et qui est née d'un constat très simple, c'est qu'avoir des enfants en bas âge, c'est difficile. On se pose plein de questions, on veut bien faire, on est fatigué et les parents peuvent se sentir parfois un petit peu perdus entre d'un côté un médecin, un pédiatre qui n'est pas toujours très disponible parce que surchargé et de l'autre Internet, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est ça qui nous a aidé à créer May, qui est une application mobile sur laquelle les parents peuvent premièrement parler par chat avec notre équipe de soins qui est composée de pédiatres, d'infirmières puéricultrices qui répondent à toutes les questions de 8h à 22h. Comme vous l'avez dit, ça va de la plaque rouge du dimanche soir au réveil nocturne en passant par la diversification alimentaire. Et deuxièmement, les parents ont accès à des centaines d'articles, de fiches pratiques qui sont 100% rédigées par des pros et qui sont adaptées à l'âge de leur enfant. Donc combien ça coûte ? C'est après une période d'essai gratuit, c'est un abonnement, ça coûte moins de 10€ par mois. Et notre objectif, pour conclure chez May, c'est vraiment d'apporter un soutien professionnel, pratique et très bienveillant aux parents de jeunes enfants.
En tout cas, on voit que vous avez écouté quelques-uns des pitchs. J'ai même plus besoin de donner les prix. Bravo en tout cas à vous, Cécilia Creuset. C'était extrêmement clair.
Oui, bravo Cécilia pour votre pitch. Je vous présente Nathalie Carré de la Chambre de Commerce et d'Industrie en charge de l'entrepreneuriat. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Cécilia, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors Nathalie qui analyse, épluche chaque dossier, chaque jour. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de May? Selon vous ?
Alors les forces, le contenu est très clair comme le pitch, rapide, facile à lire, facile à comprendre et qu'on peut donc appliquer rapidement avec ses enfants. Sur le site internet, l'équipe et notamment le personnel de santé est bien présenté, donc c'est très rassurant. Et puis le prix, puisque vous l'avez dit, permet au plus grand nombre d'accéder à service, donc de 8h à 22h, 7 jours sur 7, avec en plus une réduction sur les téléconsultations. Je mettrai deux petits points améliorés. Avec l'abonnement, donc il y a un chat avec des professionnels de santé, une réduction sur les téléconsultations. Il y a aussi donc le chat régulièrement. Bref, on ne sait pas trop bien qui fait quoi, parce que vous présentez une page équipe, mais on ne sait pas qui.
Donc c'est confus.
C'est un peu confus. On ne sait pas qui sont les professionnels qui chattent, qui sont les experts avec qui il faut prendre rendez-vous. Et puis par ailleurs, sur l'application, puisque j'ai testé, quand on veut prendre un rendez-vous, on sélectionne le sujet, sommeil, allaitement, etc. Puis on nous propose donc des jours et des heures, mais en fait, on ne sait pas avec qui on va converser. Donc voilà, cette clarification en tout cas des personnes avec lesquelles on va entrer en rendez-vous ou simplement en chat est importante pour rassurer encore une fois les jeunes parents.
Que répondez-vous, Cécilia, à Nathalie qui donc c'est très intéressant ce qu'elle dit. Enfin, c'est dans le côté un petit peu confus, c'est-à-dire c'est pas assez lisible pour la personne qui est sur le site.
Oui, mais je pense que vous avez raison. Il faut qu'on clarifie ça. Vous avez bien noté notamment sur le parcours de prise de rendez-vous, de consultation. Ce qui est important de savoir, c'est que, en tout cas, ce sont 100% de professionnels de santé, donc des pédiatres, des infirmières puéricultrices qui sont aussi surformées sur certains sujets, les neurosciences affectives, la santé environnementale, le sommeil, l'allaitement, etc. Et ça, effectivement, je pense qu'on peut le faire apparaître encore plus clairement. On va le faire, c'est un très bon conseil.
Bertrand Piccard, vous êtes notre grand témoin du jour, l'explorateur à la tête de la Fondation Solar Impulse. Vous en pensez quoi ?
Alors moi, je vais vous répondre en tant que psychiatre, puisqu'à la base, je suis psychiatre.
C'est votre métier.
On n'est pas dans la protection de l'environnement, là, on est dans la protection de l'enfance.
On est dans la survie humaine.
On est dans la protection de notre futur aussi.
Important. Le futur, l'environnement.
Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de vous faire connaître chez tous les milieux spécialisés, dans tous les milieux thérapeutiques, en faisant des alliances avec eux qui ne vous comprennent pas comme étant des concurrents. C'est très important qu'un psychiatre qui est débordé de demandes puisse dire aussi à certains de ses patients, bah, écoutez, il y a cette application, ça va me soulager un peu si vous prenez vos propres responsabilités avec vos enfants et que vous ne venez pas chaque fois me demander des conseils puisque vous les avez avec cette application. Donc, créez votre réseau pour être vraiment connu partout parce que vous le méritez.
C'est un très très bon conseil. Créez votre réseau.
Et vous avez besoin de quoi justement? De vous faire connaître, ça y est.
Exactement.
C'est fait ça. Hop. Et
c'est
après,
vraiment nous faire
un peu
connaître.
De sous.
Oui, je pense qu'avant l'été, on va lancer une levée de fonds pour pouvoir accélérer, soutenir dans la croissance, recruter, parce que le service commence à bien marcher.
Vous avez besoin
donc,
de
cette étape-là.
De combien
on va chercher entre 1 et 2 millions d'euros.
Et elle marche jusqu'à quel âge? Ça marche pour nos ados aussi, parce que ce n'est pas toujours simple quand on a les petits, mais les ados,
alors,
des fois, ça complique.
Justement, ça fera partie des sujets qu'on va travailler probablement avec la levée de fonds, c'est étendre les tranches d'âge qu'on accompagne.
Eh bien, super.
Ça s'appelle May. Merci à vous, Cécilia Creuset, d'être venue nous présenter cette application qui aide les jeunes parents. Et bonne chance.
Et un grand merci à Nathalie Carré, que l'on aura beaucoup de plaisir à retrouver dès demain. Et si vous aussi, vous voulez venir présenter votre projet, eh bien, c'est simple. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Bertrand Picard, vous êtes notre témoin du jour exceptionnel. Suite et fin de votre émission, vous restez avec nous encore quelques minutes.
Europe 1.
Allez, il est presque 13h51.
À suivre demain, un emploi. Chaque mercredi, la France Bouge et Europe 1 soutiennent et accompagnent les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi en ce moment.
80 postes ou réponse dans 2 minutes. Et une France Bouge exceptionnelle aujourd'hui avec notre grand témoin Bertrand Picard, l'explorateur à la tête de la fondation Solar Impulse, qui vient nous dévoiler les 1000 solutions qu'il a labellisées pour faire en sorte qu'on puisse mieux agir demain pour la planète, tout en permettant à ces entreprises de gagner de l'argent, de se développer et de créer, tiens, de l'emploi. Bah, ça tombe
et
bien.
Et ça tombe bien. Demain, un emploi, parce que chaque mercredi, la France Bouge soutient et accompagne les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi dans cette période compliquée. Ces offres sont à retrouver, je vous le rappelle, sur notre carte interactive par région sur europe1.fr. Et nous sommes donc avec Martine Delru. Vous êtes la DRH de C1. Bonjour.
Oui, bonjour.
Marlène Delru, excusez-moi, vous existez depuis 2007, votre entreprise existe depuis 2007, vous simplifiez les communications d'entreprise à travers un logiciel qui gère donc l'intégralité des communications. Vous permettez aux clients d'administrer, de commander via une plateforme. Et si vous êtes dans Demain un emploi en direct dans la France Bouge, c'est parce que au-delà des 525 salariés actuels dans votre entreprise, vous recrutez 80 personnes.
Exactement. Nous recrutons 80 personnes et nous avons déjà aujourd'hui recruté 60 nouveaux collaborateurs depuis le début de l'année 2021.
Quel poste alors ?
Alors, quel poste ? Alors, j'ai envie de dire, nous sommes dans une activité plutôt IT. Donc, nous recrutons principalement des profils IT, tels que donc des développeurs, des ingénieurs réseau et télécom, mais également des fonctions support, notamment des techniciens support qui répondent à l'ensemble de nos clients. Et nous avons également donc des fonctions plus administratives, comptables, RH et commerciales, bien évidemment.
C'est donc des gens qui sont sur le papier plutôt formés. Vous cherchez des gens qui sortent d'école ou pouvez-vous aussi les former ?
Alors nous avons des stages, donc nous offrons en fait de plusieurs types d'emplois. On a une partie stage, donc nous avons une plateforme donc qui permet à l'ensemble des stagiaires et des postulants de voir les stages ouverts, hein, et les typologies de stages. Nous recrutons également des juniors, donc des profils juniors sortis d'école. Certains donc étaient stagiaires et ont été embauchés d'ailleurs chez C1, et donc nous les formons tout au long de leur cursus. Et nous recrutons bien évidemment également des seniors.
Alors vous recrutez, je crois, à Paris, au Havre, à Lyon, à Rennes, à Montpellier, mais aussi à l'étranger ?
Tout à fait. C1 s'est étendu en Europe les 4 dernières années, donc en Espagne, en Belgique et en Allemagne. Nous recrutons également des profils IT dans ces 3 pays.
Bertrand Picard, les 1000 solutions des entreprises respectueuses de l'environnement, des entreprises rentables, c'est aussi une façon de créer de l'emploi ?
Énormément d'emplois. Énormément. On ne s'imagine pas le nombre de nouvelles opportunités industrielles qui existent dans tous ces domaines où on doit être plus efficient, où on doit gérer des déchets, où on doit diminuer le gaspillage, où on doit mettre en place des nouvelles technologies, installer, mettre en maintenance des nouveaux appareils, etc. Tout ça, c'est les emplois qui sont en train de se créer.
Est-ce qu'on a assez formé les gens pour cela ? Est-ce que vous les trouvez, toutes ces compétences ? Ou est-ce que les entreprises vous disent On s'en va presque un peu trop vite et on n'a pas toutes les compétences.
Non, c'est pas trop vite. Surtout que les entreprises souvent forment leurs propres employés spécifiquement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il faut se former dans des métiers de base. Il faut être éduqué. Il faut apprendre.
À quel métier pensez-vous, Bertrand Piccard ?
Il faut une responsabilisation de l'enseignement personnel. On ne peut pas toujours attendre des autres qui fassent tout pour nous. On doit prendre soi-même des initiatives.
À quel métier pensez-vous ? Quand vous dites au métier de base, à l'éducation, vous pensez à quoi spécifiquement ?
Et je pense à tous ces nouveaux débouchés. Par exemple, avec les déchets. Vous avez des nouvelles applications qui permettent de reprendre tous les métaux précieux des téléphones. Il y a 700 millions de téléphones, je crois, en France, qui sont non utilisés. Ça, c'est quelque chose qui contient beaucoup plus d'or et de métaux précieux et de terres rares que ce que vous avez dans le même volume dans une mine. Mais ça a déjà été extrait une fois. Ça, c'est des choses qu'on va réutiliser. Il y a des systèmes pour détecter les fuites d'eau, il y a des systèmes pour économiser l'électricité, il y a des systèmes pour tout. En fait, dans tous ces domaines des 1000 solutions, vous allez développer ces start-up. Et je pense que les gens qui cherchent des emplois pourraient très bien regarder sur notre site quels sont les domaines dans lesquels ces start-up se développent et puis se former un peu pour pas tomber de la dernière pluie au moment où ils auraient une offre d'emploi.
Marlène Delru, je rappelle que vous êtes la directrice des ressources humaines de C1. C'est pour commencer immédiatement, là, toutes les offres d'emploi dont vous nous avez parlé. C'est immédiat.
C'est immédiat. Alors, on va avoir du mal à intégrer 80 personnes demain. Mais en tout cas, les postes sont ouverts.
Ce sera possible.
Exactement. Les postes sont ouverts. On attend donc des postulants avec impatience.
Merci à vous. Merci d'être venu dans la France Bouge. Marlène Delru, DRH de C1.
Et un grand merci à vous, Bertrand Piccard,
merci
de nous avoir
vous.
Accompagnés pendant toute cette heure et de nous avoir apporté toutes ces solutions. Et puis, on va vous rappeler quand même régulièrement pour voir où on en est de ces 1008 solutions pour le moment.
Avec plaisir. Merci.
Merci à vous, Bertrand Piccard. Emmanuel, nous, on se retrouve demain. Demain, nous changeons de sujet.
Oui, demain, on va grignoter notamment. Ça fait partie des secteurs qui profitent du fait qu'on reste à la maison. On fait moins d'apéros avec moins de monde, mais on en fait, semble-t-il, quand même quelques-uns. Le patron d'Aoste sera avec nous.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelatte.
C'était La France Bouge avec la Caisse d'Épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'Épargne, vous être utile.